J'ai envie de prendre des nouvelles de vos familles, de vos enfants. Vous savez qu'on l'a dit un peu au cours des derniers mois, les enfants comme les personnes âgées sont souvent les plus démunis par rapport à ce genre d'épidémie, par rapport à ce genre de situation. On l'a beaucoup dit pour les personnes âgées, puis il y a la journée internationale qui s'en vient, là, c'est le 1er octobre, au moment où on va reconfiner. On va en même temps mettre un peu de lumière, puis il en faudrait plus sur le sort des personnes âgées. Et je peux déjà vous prédire que ce sera un de nos sujets, nous, jeudi. Mais j'ai envie ce matin de m'intéresser particulièrement à vos enfants. Pourquoi? Parce que vous êtes très nombreux à m'écrire, que vous soyez enseignant, que vous soyez personnel de soutien dans les écoles, que vous soyez parent ou grand-parent. Vous me le dites, les enfants au Québec vont pas très bien. Ils sont peut-être un peu à l'image de nous-mêmes, c'est-à-dire on est plus stressé, on est plus anxieux, on est plus fâché, on a toutes ces émotions-là, puis c'est clair que nos enfants nous regardent. Si vous avez des enfants, vous avez déjà dû voir le regard de votre enfant, haut comme trois pommes, qui vous regarde, puis qui attend votre réaction, puis qui vous dit « Maman, papa, est-ce que ça va? » Puis il attend que vous disiez « Oui, t'inquiète pas, ça va bien aller. » Ça va bien aller, il a pris le beurre de l'arc-en-ciel, ça n'a pas été long, on n'est plus du tout là-dedans. Là. On dirait que ça va de plus en plus mal tous les matins. On se réveille puis on a des frustrations. C'est sûr que nos enfants voient ça. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de parents qui ont des outils, qui cherchent des outils. Hier, une psychologue nous disait « il faut aller chercher de l'aide ». Moi, je veux bien, mais où ça? T'as envie de dire « OK, prends ton ticket puis fais la file d'attente pour voir un psychologue ». C'est pas évident. Je voulais vous faire entendre le témoignage d'une maman dont le fils est vraiment affecté par la pandémie. En tout cas, pour elle, c'est clair qu'elle ne reconnaît plus son fils de 6 ans. Il est en première année, puis depuis quelques semaines, il ne va pas très bien. Karine est avec moi. Bonjour, Karine.
Allô, Isabelle.
Parle-moi de ton enfant, ton petit garçon.
Bien, je dirais que depuis les dernières semaines, là, il a fait des grosses crises à l'école, à la maison. Pour la première fois, là, ce week-end, je le reconnaissais pas du tout. Donc, le directeur m'a appelé la semaine dernière, puis il était aussi vraiment
directeur de l'école?
Oui, qui est une école exceptionnelle, qui a une super belle équipe de professeurs, puis un très bon directeur là, qui prend son rôle au sérieux. Puis il m'a dit, c'est pas de gaieté de cœur là, que je vous appelle, mais honnêtement, je sais pas quoi faire en ce moment. Et puis, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir accès à une spécialiste qui peut l'aider, une psychoéducatrice ou quelque chose comme ça?
Mais raconte-moi, qu'est-ce qu'il faisait à l'école?
Oui, donc, c'est ça, il s'est rendu jusqu'au bureau du directeur. Avant ça, c'était les coups de poing, les coups de pied à la TES. Des non, je veux rien entendre, je vais casser ton ordinateur, j'écoute rien, c'est moche l'école, je déteste... des choses que je... Non, j'ai jamais entendu dire des choses comme ça, puis je le reconnais pas.
6 ans?
6 ans.
C'est jeune. Hein?
Je vais casser ton ordinateur, je veux rien savoir de toi.
Ouais.
Ferme ta gueule. Je veux dire, on parle pas comme ça chez nous, là.
Ouais.
C'est...
Puis il était pas comme ça avant, là.
Non, ben pas, non. Je veux dire, il y a déjà eu des crises, là, tu sais, normales d'un enfant qui se cherche, qui se développe, qui a un petit peu d'opposition, tout ça, mais je veux dire, là, à ce point-là, là, on était... J'avais besoin d'outils, j'avais besoin d'aide, de savoir quoi faire. Et,
à la maison, il est comment?
À la maison, ça va mieux qu'à l'école, beaucoup mieux qu'à l'école. J'essaie d'être le plus présente que je peux parce que je me rends compte avec la routine, les lunchs, les soupers, la vaisselle, le coucher, plier le linge, tout ça. Je me rends compte que j'aurais besoin de prendre beaucoup plus de temps avec eux pour les écouter. C'est ce que j'ai trouvé.
Parce que
tu as
plusieurs enfants, là. Il n'est pas tout seul en plus.
Oui, on est une famille reconstituée de 4 enfants. Mais c'est ça. Comme je disais au directeur, je lui ai demandé est-ce qu'on peut avoir accès à quelqu'un qui peut nous aider? Parce que moi, l'important, c'est de lui donner les outils dont il a besoin. Et il m'a dit, écoute, pour être honnête, on est un petit peu à court de ressources. Puis oui, je peux faire une demande et tout ça, mais je ne sais pas si je vais l'avoir, tu sais. C'est là qu'on a besoin d'aide. Donc, je me suis dit, OK, parfait. Je vais appeler au privé, je vais appeler le CLSC, je vais faire mes demandes un peu partout. Je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Donc, j'ai appelé au CLSC, là, donc j'ai laissé un message dans une boîte vocale. J'attends un retour de la clinique psychosociale. Et j'ai appelé aussi au privé là, pour avoir accès à une psychoéducatrice. On me dit qu'il y avait une liste d'attente de au moins 3 mois. Et pour une psychologue pour enfants, là, toujours au privé, c'était au moins 7 mois. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais?
En attendant.
J'ai trouvé des livres, donc je fais des lectures. Joël Monzé, SOS Nancy, tout ça. Je me suis dit, ben problème égale solution. Faut que j'essaie de comprendre, faut que j'essaie d'observer. Qu'est-ce que je peux faire pour lui?
Est-ce qu'il a formulé, ton fils de 6 ans, Karine, le fait que c'était la pandémie là, qui l'affectait?
Ben, il m'a dit à plusieurs reprises, sans qu'on parle de ça, là, pas du tout, on était dans la maison, on vaquait à nos occupations. Il m'a dit, maman, sais-tu qu'est-ce que je déteste le plus au monde? Ben, j'ai dit, non, mon chéri, c'est quoi? Il m'a dit, le coronavirus. Avec ça, on peut plus se faire des câlins, on peut plus faire des activités avec nos amis. C'est vraiment plate, maman. Donc, il y a ça que j'ai, qui m'a dit à plusieurs reprises. Il m'a dit aussi qu'il avait mal au ventre pour aucune raison. Donc, avec mes lectures, là, j'ai compris que c'est l'anxiété qui fait ça aussi, là, de ronger ses ongles et tout ça. Puis,
tu me disais, comme mère, je me sens tellement coupable.
Ben,
j'ai honte.
C'est sûr que quand le directeur m'a appelé, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme j'étais gênée là, de sa réaction, mais j'ai compris que, un, faut pas le prendre personnel.
Mm-hmm.
Puis deux, il faut juste se mettre dans la solution puis trouver des outils pour les accompagner. C'est certain que lui, il peut pas arriver puis me dire, maman, voici ce que j'ai puis voici pourquoi je réagis comme ça. Donc, il faut les observer, il faut les accompagner. En ce moment, là, la solution la plus rapide que j'ai trouvée, ben c'est vraiment d'être beaucoup avec lui à tous les soirs avant de se coucher. Hier, on s'est mis face à face avec les toutous, puis j'ai dit, là, je suis avec toi, puis j'ai envie de t'écouter. J'ai envie que tu me dises qu'est-ce que tu as dans ta tête ou dans ton cœur ou dans ton ventre ou peu importe ce que tu veux me dire, là, mm-hmm. Je veux que tu saches que je suis toujours là pour t'écouter. Même si c'est des bêtises ou des choses que tu n'es pas fière, j'ai dit, moi, je veux tout entendre. Puis il me dit, ben je sais pas quoi dire d'autre que je t'aime, maman.
Mm.
Mais, tu sais, le but, c'est ça, c'est d'être là, puis c'est de... le plus possible, parce que moi, je me disais, ben, tu sais, je suis là pour eux parce que pendant que je fais le souper puis tout ça, ben, je leur parle. Pendant que je plie le linge, je suis à côté puis, OK, vas-y, dis-moi tes lettres de l'alphabet, dis-moi tes trucs. Mais non, c'est pas comme ça qu'on peut être là. Faut vraiment être avec eux en ne faisant rien d'autre. Et les regarder dans les yeux. Tu sais, moi, je me disais, ben, je suis multitask. Je suis une maman, il faut que je fasse tout ça en même temps parce que, puis après, il faut que je dorme aussi. Mais non, c'est, pour l'instant, là, c'est ma solution. Puis je suis sur les listes d'attente. Puis de lire, d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec lui, de rester en communication avec les professeurs, le directeur.
C'est incroyable. À quel point ça affecte nos enfants. Puis on n'y pense pas toujours, là, parce qu'on a l'impression justement qu'on est dans la tourmente, dans la routine, puis qu'ils sont corrects à l'école. Parle-moi de l'école, la classe bulle, comment ça fonctionne à 6 ans, là, c'est première année?
Oui, première année.
Est-ce qu'ils sont obligés, ils portent pas de masque?
Ils portent pas de masque, mais ça se déroule bien, là, somme toute, à l'école. Ils font un super beau travail, les professeurs. C'est sûr que, bon, ils peuvent pas se mêler, puis tout ça, mais... À mes yeux, à moi, là, ça se passe super bien. On a des résumés, des semaines et des journées. Puis, ils font place aussi à... j'ai reçu un courriel de la professeure qui disait, là, j'ajoute des temps pour les écouter, pour qu'ils me parlent d'eux. Mm-hmm. Parce qu'elle dit, je vois que de toute façon, en faisant des mathématiques, le français, tout ça, à un moment donné, le temps d'écoute, il est beaucoup plus court. Puis, je veux remplacer ça par ça pour qu'ils me parlent d'eux. S'ils ont de la colère, de leurs émotions, à quoi ils pensent et tout. Alors, ça, je trouvais ça très, très bien. Tu sais.
Les faire dessiner, les faire de l'art. L'art est tellement thérapeutique aussi.
Oui, bien, ouais. Effectivement, là, ce week-end, quand il a fait une grosse crise et tout ça, on était au parc, tu sais, puis ça a été, oh my God, ça a été l'enfer pendant 1 heure et quart, là, tu sais, j'ai essayé de le calmer et tout ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai pris mes clics, puis je suis partie. Mais bref, beaucoup de cris puis tout ça. Puis même, tu sais, j'ai même vu la police là, venir faire un petit tour à côté de ma voiture parce que j'imagine qu'il y a des gens autour qui ont appelé parce qu'ils étaient vraiment là, en crise. Là. J'ai jamais vu comme ça. Mais bref, en retournant à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il est descendu. Il a pris un papier, un crayon dans la cuisine. J'ai dit, je t'ai demandé de rester dans ta chambre pour te calmer, dans ton espace privé. Il dit, attends, maman. Et là, il a dessiné un petit bonhomme avec une flèche qui va vers son nez. Et juste à côté, un petit bonhomme avec une flèche qui sort du nez. Et là, il m'a montré la feuille. J'ai dit, ben, explique-moi.
Mm-hmm.
Il m'a dit, ben, c'est un bonhomme qui...
doit respirer par le nez.
Respire et souffle. Hein? Fait qu'il dit, c'est ça ma solution, maman. J'ai dit, OK.
Wow, il est bon. À 6 ans.
J'ai failli m'effondrer. J'étais super bien. Mais c'est parce que.
Il a appris ça où à l'école?
Ben, on répète beaucoup. On répète beaucoup les solutions. On a le droit d'avoir une émotion. On a le droit d'avoir une peine ou une colère. Même maman, même moi, à mon âge, j'ai des peines, j'ai des colères. Des fois, je gagne. Des fois, je perds. Des fois, je suis fâchée. Mais il faut respirer.
As-tu l'impression, des fois, que comme parent, on ne se rend pas toujours compte de l'impact qu'on a? Même quand on fait attention, là, puis qu'on dit on est plutôt des bons parents, plutôt normaux, sains. Là.
Bien, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais je pense qu'à un moment donné, quand on regarde nos enfants, c'est un petit peu notre miroir. Moi, quand je vois mes enfants, je me dis, oh, mon Seigneur. Des fois, ils font des choses, puis je me dis, bien, c'est ça. Quand tu fais tes grandes envolées ou que tu fais, tu sais, bien, c'est ça qu'ils font présentement. Et les mots que j'utilise, donc c'est pour ça que j'essaie de travailler fort pour parler au positif, tu sais. Ouais. Hier, avant de se coucher, il me dit « Maman, va-t'en pas, j'ai peur. » Là, je me suis dit, au lieu de lui dire « Inquiète-toi pas », je lui ai dit « Je suis là pour toi.
Mm-hmm.
Je suis là pour toi, tu peux avoir confiance, tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. » J'essaie, tu sais, là, je me suis dit « Mais c'est dur, là, je veux dire, à un moment donné, mais j'essaie. »
Ça t'habite toute la journée, là.
J'essaie, parce que je me dis « C'est ça ma mission la plus importante. Peu importe ce que je fais dans la vie, moi, j'ai mis ces enfants-là au monde.
Ouais.
Ils ont pas demandé ça, puis je veux les accompagner du mieux que je peux.
Ouais.
Puis je pense que quand je vais être plus vieille, ça va être ça ma plus grande fierté. Puis je vais pas regretter de pas avoir été là. Mais je suis pas parfaite, là. T'sais, souvent, je m'enlise dans la routine, puis tout ça, puis j'oublie un peu. Puis c'est là que je vois que ça ressort aussi, là, par ces moments-là aussi, là, que...
T'es inquiète pour l'avenir de tes enfants?
Ben non, je pense qu'ils sont forts. Je pense que là c'est vraiment un moment hyper difficile où il faut bien les accompagner. Faut qu'on respire, faut que nous aussi là, faut qu'on travaille sur nous.
La flèche grande en l'air qui sort par la bouche.
Oui. Puis je me dis ce dessin là, je vais le faire plastifier, je pense. Mais tu sais, je me dis faut donner l'exemple, faut le faire, c'est ça qui est le plus fort dans tout, comment je réagis. Puis oui, moi, je suis anxieuse aussi, puis je suis hyper sensée, puis tout ça, mais je me dis... En tout cas, c'est le meilleur moyen de travailler sur soi.
Ouais.
Depuis que j'ai des enfants, là, je me dis, j'ai jamais évolué autant que ça, puis j'en ai encore beaucoup à faire, mais l'exemple qu'on donne, c'est la chose la plus forte, je trouve.
Karine, tiens-nous au courant de tes démarches, en tout cas, pour avoir de l'aide pour ton fils. On espère qu'il va bien aller, ton
merci
petit
beaucoup.
Bonhomme, puis... Il y a une bonne maman qui fait beaucoup d'efforts, en tout cas, pour prendre soin de lui.
Merci, pour le courage à tous les parents.
Oui, je pense qu'on va... ton témoignage a tellement... Regarde, nos lignes sont pleines. On va vous entendre. Je vais prendre... grâce à Karine qui a témoigné de sa situation, je vais vous demander si vous voyez que vos enfants aussi traversent une période difficile, une période qui n'est pas facile pour personne. On est tous anxieux. On a tous des émotions, là, même quand on essaye de rester calme, ce que j'essaie de faire pour vous tous les matins. Parfois, on a envie de s'emporter. C'est tout à fait normal, c'est humain, c'est ça qu'il faut se dire. On aura l'avis d'experts, bien sûr, pour vous donner quelques conseils, puis revenir sur le beau témoignage de Karine. Merci beaucoup.
Merci.
Et merci à toi. On s'arrête. Vos numéros de téléphone pour nous joindre, 514-790-9850 et sans frais, partout, vous faites le 1-866-790-9850. Même petite nouvelle de dernière heure, quand même assez importante pour ceux qui aiment bien comptabiliser les nouveaux cas confirmés par jour. 799, donc ça vient de sortir. 7 nouveaux décès, 35 hospitalisations. Donc la tendance à la hausse se poursuit au Québec. On parle des enfants, puis je vous demande comment vont-ils vos enfants? C'est quoi, quel genre de nouvelles vous pouvez nous donner? Nathalie, bonjour, vous avez deux enfants?
Oui, bonjour.
Comment ça se passe chez vous?
Ben, je dirais qu'en gros, ça se passe plutôt bien, mais là, ce que vous venez de dire me décourage un peu.
Le nombre de cas.
Qu'on a encore monté,
j'appréhende,
ce que j'appréhende le plus, c'est un reconfinement complet, que les écoles de garderie ferment. Parce que mes enfants sont jeunes, donc le besoin de sociabiliser, déjà que ma famille habite quand même assez loin, donc on n'est pas beaucoup en contact, fait que c'est difficile, là.
Ouais. Vous habitez où exactement, Nathalie?
J'habite sur la rive sud, mais ma famille est dans la Naudière. Fait que là, pour passer les régions, puis là, nous autres, on arrive dans toutes les périodes de nos fêtes. Ma plus jeune vient de faire sa fête avec juste la grand-mère du côté de mon conjoint, mais là, ma famille, ça devait être probablement en fin de semaine prochaine, mais là, c'est ça. Je pense qu'on s'enligne pour canceller tout ça.
Ben oui, effectivement. Comment vont vos enfants, Nathalie? Vous dites ils vont plutôt bien. Est-ce qu'ils démontrent quand même des signes d'inquiétude? Est-ce que vous voyez parfois là que ils semblent un petit peu perturbés?
Ben, tellement, peut-être tout par interposé, dans le fond, par rapport à moi, peut-être, qui écoute beaucoup les nouvelles, mm-hmm. puis angoisse, ouais, c'est ça, comme là, quand on entend que, OK, là, les restaurants, les bars vont fermer.
Ouais, ça nous rend
mais
dedans.
Le plus difficile, c'est d'être éloigné de la famille, de ma mère, ma soeur, mes neveux, c'est ça. J'ai pas une grosse famille, donc là, ça, c'est très pénible. Puis avec des jeunes enfants, la distanciation, c'est pratiquement impossible.
Ben oui, clairement. Merci, Nathalie. En bonne chance. Merci beaucoup. Nadia est avec nous. 4 enfants. Bonjour, Nadia.
Oui, bonjour. Mon nom, c'est Nadia. Je voulais partager mon opinion par rapport à ça. J'ai 4 enfants, puis j'ai 2 enfants qui sont affectés suite à la COVID.
Mm-hmm.
J'ai une fille qui a développé de l'anxiété, qui est en 6e année primaire, puis j'ai un garçon de 4 ans qui a un retard de langage.
Mm-hmm.
Parce que je pense que j'ai fait des appels pendant le COVID pour dire que ma fille, je la vois, elle fait des chocs vagales pour rien.
Mm-hmm.
Puis je sais que c'était difficile en ce moment-là parce qu'on avait d'autres priorités, mais je trouve que j'ai perdu quand même 6 mois ou 7 mois. Là, j'ai un suivi. J'ai pas encore de suivi officiel, mais j'attends encore des appels. C'est moi qui a fait une au privé. C'est moi qui a fait une évaluation avec un orthophoniste, avec un psychologue. Puis j'attends encore des appels du CLSC. Ça fait depuis le mois de juillet que j'ai contacté le CLSC pour qu'ils m'aident, mais j'ai pas d'aide.
Vous vous sentez complètement démunie par rapport à tout ça, là?
Démunie et délaissée à moi-même, à l'Internet, ou... excusez-moi.
Mais non,
aux informations de l'Internet.
Je comprends tellement. On va essayer de vous donner un peu de soutien. Merci, Nadia. En parlant à la docteure Céline Lamy, qui est pédopsychiatre à l'hôpital de Saint-Jérôme. Bonjour, docteure Lamy.
Bonjour Isabelle.
Merci de prendre le temps de nous parler. Vous voyez Nadia là, qui s'effondre en larmes parce qu'elle se sent complètement démunie par rapport à la situation de 2 de ses 4 enfants. Elle demande de l'aide. Puis on nous dit là, régulièrement, les psychologues, allez chercher de l'aide. Mais quand même qu'on va chercher de l'aide, il faut attendre, il faut être patient. Souvent, bon, faut regarder où sont les ressources. On nous dit attendez. Il y a eu le témoignage de Karine aussi, qui est très, très éloquent, le directeur de l'école, qui lui dit qu'il aimerait bien faire quelque chose, mais l'école n'a pas beaucoup de ressources. 3 mois d'attente au moins pour une psychoéducatrice au privé, 7 mois pour un psychologue. C'est un peu décourageant là, pour les parents.
Effectivement. Puis je voudrais quand même revenir sur le témoignage de Karine, vraiment, et Nadia, maman remarquable, qui disait « mais je comprends pas les troubles du comportement, il a jamais fait des crises comme ça ». Puis Karine qui explique bien comment elle sent que l'enfant est anxieux, il faut rappeler quand même à tous les parents que des troubles du comportement, d'agressivité ou de violence qui apparaissent comme ça, j'explique souvent aux enfants et aux parents, la colère c'est de l'anxiété ou de la tristesse qui se cache. Puis il faut quand même se mettre à la place de nos petits loulous. On leur parle depuis des mois d'un ennemi invisible, monstrueux. Il est mondialement répandu, il peut surgir à tous les coins de rue, puis on leur dit, en plus, toi, tu peux l'avoir, puis si tu l'attrapes, c'est pas tant grave pour toi, mais tu peux, c'est ce que j'ai entendu dans une famille, tu es papy et mamie. Puis on leur dit ensuite, finalement, tu vas retourner à l'école. Imaginons l'enfant dans l'état de stress aigu dans lequel il est. Il active un système très classique dont on parle chez nous, c'est le système sympathique, qui n'est pas du tout sympathique parce que c'est le système du stress et de la survie, qui met l'enfant en fait dans un système de combat ou de fuite. Et pour le fils de Karine, c'est exactement ça qui se passe. Il est dans un stress aigu. Il arrive à l'école tous les jours où il a l'impression qu'il va falloir survivre, qu'il va falloir combattre un ennemi invisible, parce que c'est comme ça que les enfants le figurent quand ils dessinent. Ils dessinent, Isabelle, des choses terrifiantes. Et ils s'imaginent qu'à tous les coins de rue, ça va surgir. Donc pour ce petit loulou de 6 ans, c'est un peu ça qui se passe. Il est en mode militaire et guerrier, puis il va à l'école dans cet état d'esprit-là, dans l'idée que il va falloir qu'il survive et qu'il se défende. Donc cette colère-là est vraiment, vraiment, et Karine l'a très, très bien compris, liée à cette anxiété très, très, très forte, en fait. Puis oui, le système, malheureusement, on répond mal à la demande actuellement. mais je dirais que c'est pas nouveau, puis le COVID est en train juste de nous montrer comment il faut repenser notre système en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, parce que ça patine beaucoup, 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 puis c'est pas nouveau, les files d'attente en pédopsychiatrie à Saint-Jérôme, mais partout ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'attente avant de voir un spécialiste. Donc c'est comment le COVID, effectivement, je dirais, acutise cette situation-là, mais qui est vraiment, vraiment pas nouvelle.
On va y revenir, on va entendre le témoignage de Caroline qui nous appelle. Bonjour Caroline, vous avez 4 enfants.
Oui, effectivement, 4 enfants, mais qui sont un petit peu plus vieux. Donc, j'ai 2 universitaires et 2 au secondaire. Mm-hmm. La vie avec papa et maman télétravail, pas toujours évident à la maison. Mm-hmm. Mais une approche qu'on n'a peut-être pas abordée et qui me je sais pas trop comment gérer tout ça. C'est l'amour au temps du COVID, vous savez. J'ai une jeune fille de 16 ans qui a découvert l'amour cet été. Et là, avec toutes les situations où l'on est en confinement, moi, je suis dans la rive sud, donc je suis touchée par la zone rouge. Et donc, là, on leur dit, vous pouvez pas vous voir pendant 28 jours. Ouais. C'est les débuts des amours, c'est des étapes importantes. Elle est en secondaire 5, donc déjà, elle se sent brimée parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir un bal, elle n'est pas sûre, elle n'a pas une vie normale de secondaire 5. Ça, c'est des choses, on est comme un peu tiraillé entre « je te comprends, mais je dois respecter les règles ». On ne sait pas trop comment aborder tout ça.
C'est vrai, je dis exactement la même chose à mes enfants hier. Puis je pense qu'il y a beaucoup de parents québécois qui ont dû le faire aussi. Bon, ben là, regarde, tu peux plus voir tes amis pendant 28 jours. Tu dois rester le plus possible à la maison, les cours à distance. J'en profite pour faire un aparté. Je ne sais pas les parents comment vous vivez ça, mais je vois, là, moi, de l'exemple de mes filles, très peu d'empathie pour la situation de la part de certains enseignants. Je ne veux pas généraliser. Je suis sûre qu'il y en a qui comprennent, qui sont très, très compréhensifs, puis qui... C'est pas le temps de faire des exemples puis d'être raide, il me semble. Puis, je sais pas, mais il y a des gens qui me l'ont écrit d'ailleurs, là, que certains de leurs jeunes avaient des notes extrêmement basses et ils comprennent pas pourquoi, qu'on n'est pas un peu plus compréhensif. Docteur Lamy, quand vous entendez Caroline avec ses grands-enfants, là, mais il faut. C'est d'autres problèmes, hein? Petits-enfants, on dit petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Des fois. Oui.
Mais en fait, ce que vous disiez effectivement aussi par rapport à l'école, c'est, je dirais que c'est notre vision d'adulte par rapport à l'enfance et à l'adolescence. Je pense qu'on est tous dans l'idée encore, malheureusement, que l'enfant ou l'ado, ce serait comme un adulte encore un petit peu incomplet, là, puis qu'on va surmonter cet handicap de l'enfance en devenant adulte. Mmh. Et le problème, c'est que, je dirais, enseignants ou même professionnels de la santé, on a cette vision très verticale de l'enfant. On se met pas à égale distance de l'enfant, puis on oublie que l'enfant ou l'ado, ils sont un sujet à part entière, ils ont une vie intrapsychique, des émotions, des amours, des peines, des rites de passage, on en parlait la dernière fois, et c'est malheureusement encore cette vision de l'enfance et de l'adolescence qui manque et qui fait qu'on pense les contraintes liées au COVID pour nos enfants et nos adolescents comme des adultes. Et c'est là où, effectivement, le clash se fait, parce qu'effectivement, ils ne vivent pas la même chose que nous. Les amours d'adolescents qui sont brisés par le temps du COVID, certains adultes, je lis des commentaires sur les réseaux sociaux, en rient, c'est dramatique. C'est effectivement dramatique. On parlait de beaucoup plus de tentatives de suicide, beaucoup plus de dépression chez les ados, mais ça fait effectivement partie d'une peine de cœur. C'est douloureux, que ce soit un ado ou un adulte, c'est douloureux. Mais on a tendance à banaliser ça en disant...
Docteur Lamy, puisque vous parlez de suicide, je me disais, est-ce que je rappelle ces statistiques aux auditeurs, mais j'avoue que vous me tendez la perche. Là, je ressortais une étude ce matin qui a paru début septembre, qui a été faite, c'est une espèce de portrait des enfants au Canada. C'est un rapport qui a été fait par plusieurs organismes et qui a compilé des études, des sondages réalisés au cours de la dernière année pour faire une espèce de bilan sanitaire des enfants et des jeunes au Canada et qui mesurait l'effet de la pandémie sur ce bilan. Et parmi les indicateurs les plus alarmants, c'est la question du suicide. Oui. Le suicide... Et là, c'est épouvantable, ce que je vais dire, parce que quand on comprend ce que ça peut vouloir dire, le suicide serait devenu la cause principale de mort chez les 10-14 ans. Ça veut dire que les jeunes, là, nos jeunes de 10-14 ans, ils meurent d'abord et avant tout au Canada, le pays industrialisé, protégé, aidé. Ça va bien, là, on n'est pas l'Inde ou l'Afrique. Là. Nos jeunes de 10 à 14 ans s'enlèvent la vie. Moi, là, ça... ça me prend à la gorge. Là, c'est moi qui ai mal au ventre, je vous avoue. Là, c'est comme, je me dis, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on tolère ça, qu'on n'en parle pas plus de ça?
Pourtant, ben, au-delà et avant le COVID, on constate dans les urgences, moi depuis à peu près 4-5 ans, le nombre d'enfants, puis je ne parle pas d'ados, qui arrivent à l'urgence pour des tentatives de suicide. L'enfant le plus jeune que j'ai accueilli récemment avait 8 ans. Et croyez-moi, Isabelle, il savait très très bien ce qu'il avait fait et que ce qu'il avait fait pouvait aboutir à la mort. Donc c'est, oui, les enfants vont mal pour plein de raisons et la COVID, malheureusement, n'arrange pas les choses. On imagine là quand même, en plus, qu'on a des enfants qui vont être dans un monde de méfiance de soi, ouais. Contagieux, je suis dangereux, je peux transmettre la mort, méfiance de l'autre. Comment vont-ils grandir dans ce monde où faire confiance à l'autre, ça va être risqué pour sa vie, en fait.
Ouais. Docteur Lamy, donc, vous restez avec nous. Après la pause, va se joindre à notre discussion Égide Royer, psychologue qui connaît bien les enfants, qui s'inquiète beaucoup du décrochage. Il nous le dit depuis tellement longtemps qu'on devrait l'écouter quand même. Et qui s'inquiète aussi de l'état des jeunes au Québec. À tout de suite. On prend un peu de vos nouvelles et surtout celles de vos enfants. Et Égide Royer est avec nous. Il est psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour Égide.
Bonjour Isabelle.
Les gens nous parlent un peu de leurs enfants, de l'état. Mm-hmm. On a eu le témoignage de Karine au début qui disait que son fils, elle ne le reconnaissait plus. 6 ans, il fait des excès de colère, mots forts, violents. Il extériorise une violence, une anxiété. Il dit qu'il a peur. Est-ce que c'est la pandémie qui a cet impact-là sur nos jeunes?
Le contexte général et l'ensemble des... On est bombardé d'informations d'un contexte général où, de toute évidence, il y a bien des choses qui deviennent difficiles à prévoir. Mm-hmm. Dieu merci, dans un contexte comme ça, et on peut le prendre selon l'angle d'apprentissage, selon l'angle de santé mentale, Dieu merci, les écoles sont ouvertes et doivent demeurer ouvertes, en tout cas, les toutes dernières à fermer, parce qu'il y a une question de répondre aux besoins sociaux de ces enfants-là. Mais l'autre élément, et j'espère que tout ça va se clarifier le plus rapidement possible, tous les psychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues et les autres, autant du public que du privé, doivent être mis à contribution présentement pour être capables de soutenir, entre autres, les jeunes qui présentent des problèmes d'anxiété ou des problèmes d'apprentissage ou que ça se manifeste par des problèmes de comportement ou non. C'est pour ça que c'est absolument urgent et indispensable qu'on n'utilise pas nos professionnels à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont une formation parce qu'il y a des besoins de santé mentale qui sont évidents, là.
Les listes d'attente, c'est incroyable. La docteure Céline Lamy, qui est pédopsychiatre, le disait aussi que même avant la pandémie, on le sait, il y avait des listes de toute façon pour avoir accès à des services en santé mentale pour nos jeunes ou tout autre problème. Vous vous êtes souvent inquiété du décrochage. Vous en pensez quoi aujourd'hui, Égide?
Oui, écoutez, on a déjà des indications, entre autres. On a des données qui viennent d'Angleterre, mais j'ai demandé d'avoir les données au niveau du Québec. C'est évident que, écoutez, je vais vous donner, je vais additionner les facteurs de risque, là. Vous êtes en milieu défavorisé, vous avez eu plusieurs mois d'enseignement à distance, vous avez des parents qui ne parlent pas la langue ou qui eux-mêmes ont des problèmes d'apprentissage, et vous rajoutez le dessus à d'être un garçon. Ça, vous avez déjà plusieurs facteurs de risque ensemble. Donc, ce qui fait que présentement, ce qui semble bien documenté, c'est que les écarts d'apprentissage entre les jeunes qui sont de milieux favorisés, qui vont bien, et les jeunes qui ont certaines difficultés de milieux défavorisés, les écarts augmentent. Et ça ne peut pas... Ça va prendre une intervention... Écoutez, on ne peut pas uniquement avoir des chiffres quotidiens sur le nombre d'enfants ou de personnels scolaires qui ont la COVID. On a besoin d'avoir aussi des indicateurs. Combien de jeunes sont nettement en retard sur les autres de leur classe présentement à cause de ça? Et qui ne s'est pas présenté au secondaire au 30 septembre? Et qui a décroché de l'école secondaire au 30 octobre en incluant les jeunes d'éducation des adultes, là, les plusieurs milliers de jeunes de 16 à 19 ans aux adultes? On a besoin d'avoir des indications aussi de l'impact scolaire au niveau de l'apprentissage, de la réussite de ces jeunes-là, parce qu'on risque d'avoir des indications dans quelques mois que, écoutez, le taux de diplomation et le taux de décrochage risquent de bouger, là, pas dans le sens que l'on désire.
Mais il y a beaucoup de choses, on pourra en parler longtemps, mais il y a une maman qui m'écrit là, que son enfant a eu une note, son jeune, là, c'est plus un enfant, là, c'est un ado, mais il y a eu une note très, très basse dans un travail, supposément parce que le prof a pas, n'a pas compris, là, ou le jeune n'a pas compris qu'il fallait l'envoyer sous un format informatique, ça n'a pas marché, la caméra n'a pas fonctionné. Bref, le prof a mal noté le jeune en disant, regarde, il faut absolument que tu répondes aux demandes. Est-ce que ce genre de choses, en temps de pandémie, ça devrait avoir
c'est
lieu?
C'est pas le temps d'avoir la mèche courte en temps de pandémie. Là. C'est le temps justement de dire, écoute, mon grand ou ma grande, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas saisi. Comment est-ce que je peux t'aider à mieux saisir ou à mieux comprendre ou à mieux réaliser la tâche que je t'ai demandée? Il y a une question véritablement de soutien. Là. C'est pas une période pour se mettre à critiquer le monde ou c'est pas une période pour intervenir de manière sèche là, dans une situation comme celle-là. Ouais. Parce que ça, c'est une période là, où l'entraide mutuelle, puis le support mutuel, puis la bienveillance doit être renforcée. Parce qu'il y en a des gens qui sont plus vulnérables. Là.
Quand on lit, puis ça, je vous avoue, quand je l'ai lu, cette phrase-là, j'en revenais pas. Je me suis dit, mais est-ce que ça se peut vraiment qu'au Canada, le suicide soit devenu la cause principale de mort chez les 10-14 ans, qui est un signe, donc, que leur santé mentale se détériore? Le même organisme qui nous explique ce phénomène dit que les enfants ont subi le fardeau de la pandémie. Vous êtes d'accord avec ça?
J'ai pas vu l'étude. Les dernières études que j'ai vues, on avait depuis quelques années une amélioration au niveau des taux de suicide, là, entre autres chez les jeunes, ou le taux de suicide en général. Mais néanmoins, plus vous avez un contexte où l'anxiété augmente, plus vous avez des jeunes qui, en termes de syndrome ou de caractéristiques dépressives, là, c'est évident que la prévalence augmente. Ce que vous soulignez, là, entre autres, au niveau de ces chiffres-là, c'est que on doit absolument aller plus loin que la simple préoccupation sanitaire. On doit se préoccuper absolument de santé mentale, de l'impact que ce virus-là a sur l'émotion et le comportement de nos jeunes, là, que ce soit des enfants ou des adolescents. Mmh. Et ça, il y a des gens qui ont une expertise là-dedans. C'est ça que je ramenais l'idée que, écoutez, il y a peut-être 8 ou 9 000 psychologues au Québec, des psychoéducateurs, on en a un grand nombre. C'est le temps véritablement que l'ensemble de ces gens-là deviennent disponibles et accessibles autant au privé qu'au public.
Et mais comment peuvent-ils se rendre accessibles, Gilles Droyer?
Je regarde entre autres, moi, pour avoir discuté entre autres avec des orthophonistes l'année passée durant la fermeture des écoles, en bureau privé, il y avait aussi des limites où le nombre de personnes qui ont été consultées en bureau privé en orthophonie avait diminué aussi. Ce que je veux dire par là, ça prend véritablement une entente, là, entre autres au niveau de la santé mentale dans ce cas-ci, une entente pour que moi, direction d'école, j'ai tel jeune, telle grande fille qui vraiment a des problèmes d'anxiété, mm-hmm. que je puisse communiquer directement avec une clinique de psychologie en privé si les listes d'attente sont pleines, là, autant scolaire qu'au niveau des affaires sociales, et d'y aller carrément en disant, allez consulter. Et il faudrait que ce type de consultation-là, qu'un premier contact suicidaire attendant de 24 heures, mais au niveau des problèmes des jeunes qui vivent probablement essentiellement des problèmes d'anxiété plus diffuses, au minimum dans les 30 jours, il y a un contact avec une personne qui est spécialisée en santé mentale. Et ça, il y aurait moyen de l'organiser, mais il faut vraiment que le réseau, autant privé que public, là, je pense que carrément clinique privée, le réseau scolaire et le réseau de santé et de services sociaux, qu'on dégage les ressources pour être en mesure de le faire. Les ressources, là, c'est de dégager l'horaire là, de ces gens-là, parce qu'on en a des gens de formation en santé mentale au Québec.
Merci beaucoup, Gilles Royer, pour ces précisions. Gilles Royer, psychologue. On va s'arrêter ici. Très courte pause. 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Est-ce que vos enfants vivent une plus grande anxiété, d'après ce que vous avez pu remarquer? On s'en parle tout de suite après la pause.
Peut-être dire un mot pour les parents qui sont inquiets. Les parents qui se disent, là, on prend des mesures, mais moi, mon enfant est dans une classe avec 25-30 autres enfants. Oui, il y a un risque, mais c'est un risque qui est calculé. Puis il faut comprendre qu'il y a un risque encore plus important si on garde les enfants à la maison. Les enfants là, ont besoin de socialiser, donc, ne serait-ce que pour eux autres, ça vaut la peine de faire des efforts pour qu'on garde le maximum de classes ouvertes. C'est important pour les enfants que les écoles restent ouvertes.
Alors, ça répond quand même à tous ceux là, qui se demandent encore ce matin pourquoi les écoles ne sont pas fermées. Il y a beaucoup de parents qui posent la question, qui ne comprennent pas trop. Je pense que le premier ministre du Québec l'exprime très bien dans cette clip-là qui est extraite de son point de presse d'hier. Je vous encourage à l'écouter à nouveau à 13h. Ce sera diffusé sur nos ondes. Il sera avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et bien sûr, Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, qui vont sans doute préciser ce qui nous est tombé dessus hier, là, cette sorte de reconfinement. Andréane est avec nous, elle est mère d'enfants justement qui ont des enjeux, entre autres d'apprentissage, de langage. Vous avez remarqué qu'ils étaient plus anxieux, Andréane, vos enfants?
Je peux pas dire qu'ils sont plus anxieux. Moi, ce que je trouve surtout difficile, c'est que, comme ça a été dit plus tôt, les ressources, surtout au public, sont pas là. Moi, j'ai beaucoup investi cet été, là, orthopédagogue privé pour celui en difficulté d'apprentissage, il y a 10 ans. Fait que j'étais pas capable de faire l'école à la maison. J'avais un bébé naissant. Fait qu'on s'entend que j'ai pas été une très bonne professeure en mars. Mon plus jeune, ben lui, c'est des gros retards de langage. Donc encore là, orthophonie privée et tout, puis là, il y a un retard sévère. Puis la garderie, quand elle avait fermé, ça a pas aidé parce que j'ai l'impression il essaie plus de parler quand il est avec des enfants de son âge, mais on a été très longtemps sans enfants de son âge dans l'entourage avec le
Il a pas pu socialiser justement, là, puis c'est vrai.
Fait que puis je sens que ça j'entends un moment donné que ça commençait un petit peu à avoir débloqué, mais avec moi, ça fonctionne pas, le langage. Il veut vraiment pas parler avec maman pour une raison obscure. Mais à la garderie, il essaye un peu plus au moins. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, c'est difficile. Puis je me dis, j'ose pas imaginer quelqu'un qui a pas les... Tu sais, je peux pas dire que je suis super riche, mais je peux quand même me permettre d'aller chercher des ressources au privé. Mm-hmm. J'ai des assurances qui trouvent une partie. J'ose pas imaginer un parent qui est ferré ou qui est déjà sur ses économies parce qu'ils ont perdu leur emploi. Je trouve qu'on manque de ressources pour
complètement.
Les enfants. Puis,
mais donc, vous, Andréane, en gros, là, vous êtes contente que les écoles soient restées ouvertes, alors?
Oui, quand même, parce que mon plus vieux, il y a 10 ans, puis il y a des grosses difficultés d'apprentissage. Il y en avait déjà avant, mais j'ai l'impression que ça l'a empiré.
Ouais.
Puis pour la garderie aussi, pour la sociabilisation, surtout que là, on évite de voir nos familles, fait que les cousins et cousines aussi, même s'il y en a de ton âge, ils ne voient pas vraiment. Donc, moi, je suis pour, ne serait-ce que pour ça, là, d'avoir du soutien.
Merci beaucoup, Andréane. Caroline, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez remarqué plus d'anxiété chez vos enfants?
Oui, mais tout de même, plus récemment, hier dans la classe, les enfants ont écouté une vidéo sur la COVID.
Ouh.
Et dans ce vidéo, un reportage, un documentaire, ils indiquaient là, que l'Halloween serait probablement cancellé et peut-être Noël.
Mmh.
Et quand mon enfant est revenu de la maison, nous, on s'en rend pas compte, mais pour eux, c'est toutes les petites choses qui comptent. Donc, c'est bizarre. Moi, je trouve de leur créer déjà une angoisse parce qu'ils ont déjà l'angoisse de performer, de rattraper l'année dernière. Puis là, ben eux, c'est leur petit monde hein, de voir leur ami,
de
faire des fêtes. Donc, cet aspect-là, nous, on l'oublie parce qu'on est adultes, mais eux, c'est très important pour eux.
Vous avez raison. On apprenait ce matin que le défilé du Père Noël sur la rue Sainte-Catherine à Montréal allait être annulé aussi. C'est toutes ces petites choses qui font partie de la vie d'un enfant. Merci, Caroline. Je conclue avec la docteure Céline Lamy, qui est pédopsychiatre. Docteur Lamy, qu'est-ce qu'on peut dire là, pour peut-être donner des solutions aux parents là, qui nous écoutent, qui aimeraient bien avoir les bons mots pour leurs enfants, un peu à l'image de Karine là, qui a lancé la discussion en nous parlant de ce qu'elle vivait avec son fils de 6 ans.
Tout à fait. Puis même pour reprendre ce que Caroline disait, je pense qu'il va falloir qu'on n'oublie pas qu'il faut rester et aider nos enfants à continuer à s'émerveiller dans les petites choses.
Mm-hmm.
Pas oublier effectivement de jouer avec nos enfants. Oui, on doit appliquer des règles strictes, mais on peut ne pas les prendre au sérieux. Il faut continuer à s'amuser. Le masque, par exemple, c'est tout simple. Réinvestir le masque, pas uniquement dans une intentionnalité tout à fait sanitaire. On peut le désacraliser, on peut dessiner dessus, on peut s'amuser, se déguiser. C'est vraiment, vraiment important de continuer à s'émerveiller puis de jouer avec nos enfants. Karine en a parlé, c'est la façon dont elle arrive à communiquer avec son fils qui va mal. Puis une dernière ressource, je voudrais quand même en parler. On n'en parle pas assez, mais il y a des cliniques virtuelles de psychologues qui ont encore des places, qui s'occupent d'enfants et d'adolescents, notamment la clinique Mutual. Puis il y a vraiment des ressources qui sont de plus en plus précises et précieuses. Donc j'invite aussi les parents à aller sur Google, à regarder ces cliniques virtuelles qui peuvent être quand même une ressource.
Vous avez parlé de la clinique Mutual, c'est bien ça?
Mutual, M-E-E-T-U-A-L. C'est des psychologues qui sont à l'ordre des psychologues. Et puis, c'est vraiment une ressource précieuse. J'ai déjà référencé des patients. J'ai fait appel également. Et il suffit de prendre un rendez-vous en ligne. Il y a beaucoup de disponibilité. Je pense que ça peut être une ressource également.
Ben écoutez, effectivement, on va encourager les gens à aller essayer de trouver l'aide là où elle peut être, effectivement. Merci beaucoup, docteur Céline Lamy, d'avoir
Merci
pris
Isabelle,
le temps de
bientôt.
Nous parler. On va espérer que nos enfants aillent mieux. Puis une des bonnes façons de le faire, c'est de nous aussi essayer de contrôler notre propre stress, notre propre anxiété. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, passez une très, très bonne journée à notre antenne. Je vous rappelle donc cette conférence de presse de 13h du premier ministre François Legault. À demain, tout le monde.